Près de 370 000 contaminations au Covid hier en France, un appel à la grève à l'école demain, une campagne de vaccination chez les 5-11 ans qui décolle très très lentement. Comment les enfants et leurs parents traversent-ils cette période? C'est notre sujet jusqu'à 13h45. Je vous attends au standard 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Bonjour docteur Brigitte Viret.
Oui, bonjour.
Vous êtes pédiatre libérale à Dijon et présidente du syndicat national des pédiatres français. Question toute simple d'abord, docteur, comment vont les enfants et familles que vous recevez en ce moment?
Eh bien, moi, je trouve qu'ils ne vont pas très bien, qu'ils vont moins bien que ces derniers mois, parce qu'ils ne savent plus du tout comment réagir et, je dirais, si je puis me permettre, à quel sein se vouer avec cette vague Omicron qui est en train de déferler.
Je voudrais vous faire part de ce message-là sur l'appli. Je voudrais demander à Madame Viret pourquoi nous ne voyons pas les pédiatres et psy se mobiliser davantage pour défendre la santé physique et psychologique de nos enfants. Ils subissent depuis près de 2 ans des privations de tout. Pas de câlin avec les grands-parents, pas d'école, pas de possibilité de respirer librement avec le masque sur le nez, pas de moment festif à l'école. Cet environnement ne peut avoir que des impacts négatifs sur leur développement. Que faisons-nous pour changer cela? Vous avez des messages, si j'ose dire, ou des paroles de cette nature-là dans votre cabinet?
Alors, pas exactement de cette nature-là, mais effectivement, on est assez attentif au comportement des enfants. On essaye d'expliquer les choses. Après, de ce que dit la personne là, dans votre message, nous, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut dire les choses. On peut expliquer aussi bien à nos autorités qu'à d'autres personnes que effectivement ça devient de plus en plus compliqué pour les enfants. On a alerté sur les problèmes du confinement et tout ce taux de dépression qui avait augmenté chez des petits. Mais on alerte. Après, on est plus ou moins entendu. C'est vrai que ce qui se passe à l'heure actuelle avec ces tests à répétition, avec des parents qui courent partout pour essayer de faire tester leur enfant parce que sinon ils ne peuvent pas le remettre à l'école, c'est devenu assez ubuesque quand même, cette façon de faire, parce qu'ils y sont en permanence, aller se faire tester. Donc, c'est peut-être pas ça la solution.
Pour rester sur la santé psychologique, ce message de Benjamin, notre fille de 3 ans et demi, parle régulièrement du virus, de tests, etc. Et c'est normal, nous dit Benjamin. Mais à quel moment, tout de même, faut-il s'inquiéter si ça devient trop récurrent?
Oui, alors je pense qu'à 3 ans et demi, si elle en parle comme ça, il faut peut-être s'inquiéter. Mais ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on dit dans l'entourage proche de l'enfant. Donc à 3 ans et demi, je ne sais pas si elle est déjà, je pense qu'elle est déjà scolarisée. Donc ça dépend comment c'est abordé effectivement à l'école. Et ça dépend aussi dans la réaction de la famille. Est-ce qu'on est soi-même angoissé? Par la situation, parce que c'est vrai que si on est angoissé, on transmet son angoisse à son enfant. Les enfants sont des éponges, et tout ce qu'on peut ressentir, ils le ressentent. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, parce que il faut être quand même détendu vis-à-vis des enfants, et je pense que pour certains parents, c'est compliqué, parce qu'avec effectivement ces chaînes infos qui tournent en permanence sur le sujet du Covid, avec des gens qui succèdent sur les plateaux qui disent jamais deux fois de suite la même chose, je comprends que ça angoisse un peu tout le monde.
Question de Jérôme au standard pour vous, docteur Viret. Bonjour Jérôme. Est-ce que Jérôme est avec nous au standard? Non, pas encore. Alors Mathilde au standard. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Nous vous écoutons, soyez la bienvenue.
Bonjour, donc ma question concerne les tests en fait. Pourquoi en France on se fait à faire des tests nasopharyngés, donc très profonds au fond du nez, alors que dans d'autres pays, moi je reviens du Canada, là les tests sont faits au niveau de la narine, donc c'est beaucoup moins invasif. En Allemagne, donc j'habite en Alsace, donc chez nos voisins allemands, les tests qui sont faits tous les jours par les enfants à l'école sont aussi nasaux. Et ça serait beaucoup mieux accepté par tout le monde. Donc je ne comprends pas pourquoi on fait encore des tests si profonds et si invasifs en France.
Docteur Viret, quelle réponse?
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Effectivement, nous commençons à avoir à notre disposition des tests nasaux, et en particulier, il y a une marque qui convient, enfin, je connais pas toutes les marques, mais moi, il y a une marque que j'ai qui convient très, très bien aux enfants, parce qu'on enfonce d'un centimètre ou un centimètre et demi, c'est assez large. Donc, voilà, c'est absolument pas traumatisant pour les enfants, et ça a l'air d'être assez fiable, puisqu'on l'a testé pour se rendre compte, parce que même ce qu'on propose le plus souvent pour faire les tests nasaux, c'est exactement comme les tests nasopharyngés, et c'est quand même un coton-tige tout fin qu'il faut quand même enfoncer bien dans le nez. Alors que celui-là, c'est un tampon qui s'enfonce de 1 cm, à peu près 1 cm et demi, et vraiment, même chez les tout-petits, c'est très très bien toléré.
Test salivaire, ça se pratique ou pas du tout ?
Ça peut se pratiquer, mais c'est compliqué parce qu'il faut quand même que l'enfant arrive à cracher pas mal de salive.
Oui.
Donc chez les petits, c'est pas possible. Et c'est un tout petit peu moins fiable quand même. Mais bon, répéter comme souvent, ça va. Mais c'est pas si facile que ça.
Question de Jérôme. Nous avons retrouvé Jérôme au standard. Soyez le bienvenu, Jérôme.
Oui, bonjour. Bonjour la France Inter. En fait, je vais faire vacciner, non sans appréhension, mon garçon de 12 ans cet après-midi à 40 km de chez moi parce que j'ai pas trouvé plus proche. Ma question, c'est la suivante. Il a été, il a eu le Covid en avril 2021 avec un test antigénique. Il me semblait que la haute autorité de santé stipulait bien qu'une infection conférait une immunité sans durée de temps. Et ma question, c'est, il ne devrait avoir qu'une dose.
Et là, c'est sa deuxième dose que vous apprêtez à...
Non, il n'est pas vacciné. Donc,
d'accord.
C'est la première dose qu'il va avoir. Donc, je voudrais être certain qu'il n'ait bien qu'une dose, puisqu'il est arrivé exactement la même chose à sa mère. Et on lui a dit, il faut deux doses plus une dose de rappel. Donc, je ne comprends pas pourquoi la haute autorité sanitaire stipule qu'une infection est équivalente à une dose. Je ne comprends pas pourquoi on rajoute toujours ce que stipule cette haute autorité sanitaire.
Alors,
je voudrais être bien certain que mon enfant n'ait qu'une seule dose cet après-midi pour avoir son passe vaccinal valide.
Docteur Viré, que peut-on répondre à Jérôme ? Donc, enfant positif en avril, première dose là, ça suffit ?
Ça suffit. Il faut que la personne qui lui fasse le vaccin clôture à ce moment-là la vaccination. Et par contre, il faut amener le résultat du test pour bien montrer qu'effectivement, il a eu un test positif et normalement, c'est terminé, en tout cas pour l'instant, parce qu'on se rend bien compte que il y a eu la troisième dose pour les adultes. Est-ce qu'il y aura une dose de rappel pour les enfants ? Pour l'instant, on n'en est pas là, mais rien ne dit que dans 6 mois, il n'y aura pas une troisième dose pour les enfants. On ne sait pas à l'heure actuelle. Hein. Mais pour l'instant, il a eu le Covid en avril dernier. Donc normalement, avec le résultat du test antigénique, c'est une dose et c'est terminé.
Jérôme, vous avez commencé votre intervention en disant « je vais le faire vacciner non sans appréhension ». Est-ce que je peux vous demander pourquoi ?
Je ne vous cache pas que moi, je ne suis pas vacciné. En fait,
oui.
Si je fais vacciner mon fils, pas du tout pour par responsabilité. C'est juste histoire qu'il ait son pass et qu'il ne soit plus embêté. Moi, je trouve qu'on se moque quand même beaucoup des gens. Ça fait 30 ans que l'hôpital est au banc de la nation. Ça fait 12 ans que le point d'indice des fonctionnaires n'a pas bougé. Donc, on met le doigt sur les non-vaccinés, pour être poli, en disant qu'ils encombrent le système de santé, alors que ça fait quand même 30 ans que le système de santé est dans un état catastrophique. Donc, je trouve qu'on se moque du monde, en fait.
Docteur Viré, merci Jérôme pour votre intervention. Docteur Viré, sur la vaccination et des ados et des enfants, est-ce que vous rencontrez des familles réticentes et qu'est-ce que vous leur dites ?
Oui, c'est effectivement pas si facile que ça. On a un peu soit les personnes qui attendaient la possibilité de faire vacciner leur enfant et qui sont extrêmement demandeurs, et puis d'autres personnes qui préfèrent attendre. Alors, il y a deux choses à considérer. Comme toujours, quand on fait un vaccin, il faut toujours partir de la balance bénéfice-risque. L'inquiétude qu'on pouvait avoir, parce que quand on avait vu que chez des jeunes, il y avait plus de myocardite avec le vaccin, c'était est-ce que ça serait pareil pour les enfants. Donc maintenant, on sait qu'il y a très très peu de cas de myocardite après vaccin chez les enfants. Je rappelle, c'est le tiers de la dose adulte. Hein. Donc aux États-Unis, sur plus de 8 millions de doses qui ont été faites, il n'y a eu que 11 cas de myocardite, ce qui est très peu. Et pour les enfants, on sait que quand ils ont eu le Covid, il y en a un sur 4000 qui peut ensuite faire ce qu'on appelle un PIMS, c'est-à-dire une réaction inflammatoire globale qui arrive 3 semaines ou 1 mois après l'épisode aigu du Covid. Donc, vu la façon dont maintenant on voit se propager l'Omicron, on se rend compte que effectivement il y a beaucoup d'enfants qui sont positifs. Donc le 1 sur 4000 qui était pas très important quand il y avait peu d'enfants touchés risque de devenir important. Donc la balance bénéfice-risque est effectivement en faveur du vaccin.
Message d'Ahmed qui nous dit « Ma petite fille a 9 ans, on regarde la situation complexe pour trouver un lieu pour se faire tester. » Elle a écrit au ministre de la Santé pour lui dire son étonnement de ne pas trouver de pharmacie. Elle termine par lui souhaiter bon courage et le remercie pour son travail. Des familles qui ont du mal à trouver de quoi se faire tester, vous envoyez beaucoup.
Ah oui. Oui, bien sûr, parce que il y a des pénuries de tests, il y a des pénuries de réactifs quand on fait les PCR. Et donc nous, on voit de plus en plus les parents qui nous demandent de venir se faire tester chez nous. Donc, ce qui est aussi un peu compliqué pour nous, parce que entre faire effectivement les consultations habituelles qu'on fait, les enfants malades d'autre chose que du Covid, les enfants malades du Covid, et faire en plus des tests comme ça, ça devient compliqué à gérer dans la gestion des rendez-vous et dans le temps imparti, quoi, si vous voulez. C'est vrai que c'est. Mais je comprends cette demande des parents, parce que on voit bien qu'il y a des files d'attente. Ils font la queue pendant au moins 1 heure, voire plus. Alors chez moi à Dijon, il fait quand même un peu froid là en ce moment. Donc pour les enfants, c'est quand même c'est très très difficile pour eux. Moi, j'ai tendance à dire parfois que c'est un peu limite de la maltraitance.
On en parle pour les adultes, est-ce que c'est le cas aussi pour les enfants? Il y a beaucoup de prises en charge d'autres maladies qui sont retardées avec du coup des pronostics de soins qui se dégradent à cause du Covid.
Oui, c'est pareil pour les enfants. Alors peut-être un peu moins prégnant que pour les adultes, mais quand même, il y a des choses. Moi, j'ai bien vu, par exemple, une enfant qui avait une intolérance aux protéines de lait de vache. Il fallait faire la réintroduction du lait de vache en milieu hospitalier. Eh bien, elle a attendu très très longtemps, ouais. Cette maman. Alors, c'était pas hyper grave, mais enfin, c'est un régime sans protéines de lait, c'est quand même compliqué à suivre sur du long terme. Donc voilà. Et on peut avoir d'autres prises en charge avec des interventions chirurgicales éventuellement qui peuvent être tardées.
Merci, docteur Viret, d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter.